un podcast France Culture.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas ! Attention ! Attention !
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Ne vous affolez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie par les droits.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Alors ils veulent que je fasse un discours, mais je ferai un discours très très bref, hein. J'irai 3 mots à la franchement. Voilà. Alors ça c'est une salle où il y a tout eu. Il y a eu des réunions syndicales rudes, et puis il y a eu des décorations chaleureuses, et il y a même eu une boum. On a tous chanté. Voilà.
C'est un farceur. Il se censure pas trop. C'est ça qui est bien. Moi, je crains un peu avec Aurélie Filippetti. C'est autre chose. Hein. Si c'est les mineurs lorrains, c'est autre chose. Ça va être beaucoup plus... On va pas se permettre de faire des jeux de mots sexuels, un peu à connotation. Parce que lui, c'était sans arrêt. Donc, c'est changement de style.
Je n'étais proche de personne. Et j'étais en bon terme avec tout le monde. Mais j'aurais du plaisir à revoir Pierre Lelouch, à revoir Roselyne Bachelot. Simplement, est-ce qu'ils auront le temps? Je suis pas sûr. Parce que eux, ils vont continuer.
C'était en 2012. Nous avions alors consacré dans Les Pieds sur Terre une série au dernier jour. Le dernier jour de classe, le dernier jour avant le départ en maison de retraite, le dernier jour avant une expulsion, etc. Et c'est ainsi que nous avions eu, un peu par hasard, l'idée de raconter la dernière journée de la vie d'un ministre, et plus précisément, le dernier jour de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, rue de Valois. Nous sommes donc le 16 mai 2012, aux alentours de 10h du matin. À quelques rues de là, Nicolas Sarkozy passe le pouvoir à François Hollande, élu 10 jours auparavant à la présidence de la République. Nommé ministre de la Culture le 29 juin 2009 dans le gouvernement Fillon II, Frédéric Mitterrand emballe ses derniers cartons après 151 semaines d'un mandat dont l'histoire nous dira ce qu'il faut retenir. Quelques heures plus tard, Aurélie Filippetti sera nommée à sa place. Mais pour l'heure, à la télévision, allumée dans son bureau, Frédéric Mitterrand regarde la cérémonie de passation de pouvoir, évoque ses fiertés de ministre, sa vie amoureuse au cours de son mandat, ses renoncements, son salaire, quelques visites mémorables, avec une mélancolie qui résonne étrangement au lendemain de sa mort. Un épisode signé Amaury Chardot que nous vous proposons de réécouter donc pour nous souvenir de cet homme lors de cette étrange journée.
Il n'y a plus personne. C'est incroyable. C'est devenu le palais hanté. Il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Il n'y a personne. Regardez.
Regardez le bureau. Moi, je ne suis pas dans le bureau de Malraux, mais le bureau de Malraux.
Qui est le bureau du directeur de cabinet maintenant. C'est vide. Personne.
Ils auraient pu vous attendre quand même.
Bah non. Non, non. À partir du moment où on leur trouve une nouvelle affectation, il faut vite qu'ils la rejoignent, autrement elle va être prise par quelqu'un d'autre. Il y en a quelques-uns qui se retrouvent au chômage. C'est pas pour faire pleurer Margot que je dis ça. Mais je dis simplement que c'est pas aussi simple qu'on imagine. Voilà. Ah, il y a Monsieur Biron qui est là, Monsieur Jean-Pierre Biron, mon conseiller. Monsieur Jean-Pierre Biron, qui est arrivé le premier jour avec moi, et qui m'a dit je repartirai le dernier jour. Vous voyez,
bonjour,
je vais vous enregistrer ce jeune homme.
Ah bon,
oui. Jean-Pierre est arrivé le premier jour avec moi et il m'a dit je partirai le dernier jour. Voilà.
Je t'emmènerai dans ma voiture.
Mais non, je vais repartir en scooter.
T'es parti en scooter?
Oui. J'ai une tâche. Voilà, on a mis ma photo, vous voyez, c'est un peu comme dans les cigares du pharaon, quand on passe. Voilà, maintenant il y a Fredo, il manque Milou, là. Et puis ça vient. Tu es là cet après-midi? Bon, je viendrai te voir tout à l'heure. Galerie des portraits, oui.
Ça vous inspire quoi?
Je dis, c'est les cigares du pharaon. Vous savez, quand Tintin et Milou passent devant les sarcophages, et qu'il y a le nom de tous les gens qui ont été embaumés. Et donc, tout d'un coup, ils voient deux sarcophages qui sont vides, et sur lesquels il y a marqué Tintin et Milou. Ça veut dire que c'est le sort qui les attend. Mais voilà, chaque fois, j'ai l'impression de voir la même chose. Alors, jusque-là, maintenant, ils sont tous morts.
Alors, je lui dis pourquoi. Elle me dit parce que je sais que vous avez calculé une demi-heure de vacances, que vous croyez que je vais être une demi-heure en retard.
Je suis en train de finir de ranger mes cartons. Enfin, vraiment, là, tout est parti déjà. Je ne suis jamais allé à aucune passation. Voilà, je regarde ça à la télévision, comme tout le monde, c'est très bien. J'ai failli y aller, puis je me suis dit que peut-être je ne serais pas le bienvenu. Alors voilà Edith Cresson, voici Manuel Valls et son physique de beau ténébreux. Il est beau gosse, Manuel Valls. Hein? C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait fait des commentaires un peu acerbes sur mon livre La mauvaise vie. Il devait se sentir un petit peu, je sais pas, menacé. Et voici Mazarine. Ah ben quand même, il y a un membre de la famille. C'est bien. Mais surtout un membre très bien en plus. Il ressemble de plus en plus à François. François Hollande qui serre la main de Nicolas Sarkozy. Voilà. Ce serait amusant, ce serait qu'il se fasse un petit bisou. Hein? Que ça dérape. Tu es bien rasé aujourd'hui, François. Tu sens bon, Nico. Ce serait mignon. Alors là, ils vont dans leur bureau, ils vont échanger les chiffres de la bombe atomique. Voilà, il y a un monsieur qui court dans l'escalier, on ne sait pas qui c'est. Peut-être que c'est lui qui a le code de la bombe atomique.
Bonjour monsieur. Vous êtes le majordome du ministre en fait?
Oui, je fais partie des maîtres d'hôtel. On a une petite équipe, on est enfin, deux maîtres d'hôtel, le cuisinier, il y a un intendant. On fait partie des murs en quelque sorte. Des personnes qui restent, peu importe le remaniement, les personnes. On reste en poste, en attendant.
Vous aviez noué des relations particulières avec le ministre ou...
Au bout de 3 ans, oui, on s'attache un petit peu quand même. Enfin, y a des rapports qui sont un petit peu amicaux et tout, qui sont assez, assez sympathiques. C'est quand même un personnage déjà, avant d'arriver, qu'on a su qui c'était. Donc, on le connaît via la télé, tout ce qu'il a pu faire. Donc, c'est quelqu'un qui est simple, gentil, qu'on peut approcher facilement, sans problème. Enfin, ça arrive, lui, qu'il m'appelle par mon prénom. En tutoyant, enfin les personnes qui l'aiment bien et tout, c'est vrai qu'il a tutoiement c'est facile. Et... La journée va être très calme, hein. De toute façon, ils attendent que le gouvernement soit annoncé. Au principe, la passation sera demain matin, je pense, donc on verra bien.
Le dernier jour de classe était toujours un jour triste pour moi, parce qu'on allait être séparés de ses camarades pendant la période des vacances, et on n'était pas sûr de les retrouver ensuite. Donc, c'était pour moi toujours quelque chose de très nostalgique, très mélancolique. J'éprouve pas du tout ça, là, en l'occurrence. D'abord, parce qu'il y a un certain nombre de mes camarades de classe que je n'ai pas forcément envie de retrouver, et que les autres, ceux que j'ai envie de retrouver, je les retrouverai. Donc, là, j'ai pas la même inquiétude. Non, il n'y a pas de mélancolie. Évidemment, j'étais un ministre de Nicolas Sarkozy, donc j'aurais préféré qu'il soit réélu.
Vous allez quitter ce bureau, vous allez quitter cet endroit.
Alors là, je n'ai jamais pensé que ce bureau m'appartenait. Je ne suis pas comme la préfète, vous savez, qui est partie avec les meubles, les tapis, les trucs. Moi, je pars avec rien. Je ne suis pas du tout impressionné par les ors et les paillettes et toutes ces choses-là, contrairement à une idée fausse qu'on se fait de mon caractère. Voilà nos cafés. On profite des derniers moments. Tu as mis une belle cravate, dis donc, aujourd'hui. Extraordinaire. Elle est toujours de cette couleur, je n'ai pas remarqué.
Oui, des fois les roses.
Hein, quelquefois, les roses. Ça, c'est après les soirées. Tu peux arroser les roses. Un côté pink ici, un peu.
C'est ça.
C'est Pink TV.
C'est votre majordome ?
Il y a deux majordomes dans la maison. Et puis, il y a un intendant et il y a deux cuisiniers. Et moi, j'ai beaucoup veillé à ce que le ministère soit une maison et que les gens qui viennent pour des repas ici soient bien traités. Alors comme le budget du ministère est serré, et notamment dans ce registre-là, alors les buffets étaient quelquefois assez un peu modestes. Quand j'avais reçu les Coréens du Nord, ils croyaient qu'ils venaient pour dîner, c'était un cocktail. Alors ils sont partis, ils étaient un peu surpris. Après Tranchil, c'était un peu surpris. Alors en plus, les Coréens du Nord, quand ils arrivent, sont quand même un peu robotisés quand même. Et heureusement, il y avait de l'alcool. Alors après quelques rasades, ils n'étaient plus du tout robotisés. Et ils se battaient pour les chips. C'était un spectacle extraordinaire. Finalement, Myung-Woon Chung, le chef d'orchestre sud-coréen qui les avait invités, a fait un discours en coréen. Heureusement, j'avais une dame coréenne à côté de moi qui me traduisait. Et il a dit, en gros, ici, il n'y a rien à bouffer. Finissez l'alcool et les chips et après, on va ailleurs. C'était très élégant comme réaction. J'étais très vexé, je dois dire. Parce que, en vérité, comme je vous le dis, je crois que c'est une maison où on reçoit bien les gens.
J'adresse aux Français un message de confiance. Nous sommes un grand pays qui, dans son histoire, a toujours su affronter les épreuves et relever les défis qui se présentaient à lui.
Là, je pense à Nicolas Sarkozy et à Carla qui sont dans leur voiture en train de regagner la demeure de Carla. Ça ne doit pas être très, très, très agréable.
Vous lui avez parlé un peu à Nicolas Sarkozy depuis sa...
Non, je n'ai pas voulu. Je pense qu'il avait d'autres soucis que de m'entendre. Il avait d'autres choses à faire. Il peut toujours... S'il en a le désir, je l'ai tout de suite. Mais... Vous voyez, c'est à cet instant-là que j'ai senti que je ne suis plus ministre. C'est toujours la différence entre savoir et sentir. Je sais depuis plusieurs jours que je ne suis plus ministre. Là, je le sens. Ce beau discours présidentiel montre que le temps a changé. Je pensais que je pourrais faire beaucoup plus de choses. Parce que c'est tellement lourd, c'est tellement long, et chaque fois qu'on bouge, ça change les habitudes et les situations acquises de tant de gens que chaque fois que vous bougez, vous avez 10 personnes qui viennent vous dire qu'il ne faut pas bouger. Et sur les 10 personnes, il y en a quelques-unes qui le disent avec une grande légitimité. Et puis vous avez les autres qui sont en embuscade, qui ne veulent pas que ça bouge, etc. Donc c'est très compliqué. On se fait beaucoup d'ennemis, oui. Ça m'a rendu malade. Mais d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes psychosomatiques. Oui, ça m'a rendu malade. Mais je le faisais quand même. Vous savez, l'exemple de François Mitterrand est quelque chose de très, très puissant dans ma vie et dans ma famille. Depuis la petite enfance... Désolé.
Oui. Bonjour, vous êtes très gentil de me rappeler. Je voulais vous dire simplement, j'ai fait deux virements sur mon compte et je voulais savoir s'ils vous étaient bien parvenus. C'est-à-dire, je voulais savoir l'état de mon compte en fait. Parce que je vais venir samedi et dimanche et je ne pourrai pas passer. Et en même temps, il faut que je fasse des chèques pour la maison. Donc je voulais savoir si le compte était bien approvisionné comme je l'espérais. C'est très gentil, hein. Merci beaucoup. Merci.
Désolé, c'est des détails. Quand on est ministre en permanence, en fait. Et on ne peut pas aller au cinéma tout seul, dans un coin. Parce que les gens... Bizarrement, les gens n'aiment pas les ministres à protocole. Et ils ont raison. Moi, je suis moi le premier, comme citoyen. Et par ailleurs, ils n'aiment pas non plus que le ministre ne soit pas un ministre. Et ils vous le font sentir. Donc il faut essayer de faire, comme l'a dit François Hollande dans son discours hier, qui était très bien, il faut essayer de trouver une juste mesure entre la... Ce sont des grands mots, mais entre la simplicité et la dignité. Parce que les gens n'aiment pas des ministres qui ne sont pas des ministres. Et je trouve que c'est très démagogique de vous vouloir faire le type totalement relax et qui vous reçoit en jean, etc. C'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent le ministre. Voilà. Mais dès que je suis plus ministre, c'est fini, je redeviens comme avant. C'est pas un problème.
Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de faire à partir de demain ?
De pouvoir faire, de retrouver du temps. C'est le problème, c'est la lutte contre le temps. Vous savez, c'est un métier bizarre. Hein. Je me levais à 6h30. J'étais ici vers 8h, 8h30. Je repartais rarement avant minuit. Hein. Ou comme j'allais beaucoup au spectacle, parce que je pense que c'est nécessaire, enfin, je me couchais jamais avant 1h du matin. Donc il y a une fatigue que je n'ai pas sentie d'ailleurs. Parce qu'on est porté, on est dopé par l'événement. Mais ça s'est traduit par des petits dérapages quand même. Une addiction au cigare, par exemple. Parce que le tabac, c'est un bout de dope. J'ai pas d'autre addiction, celle-là. L'absence totale de toute vie amoureuse. Compte tenu de mes caractéristiques, je ne voulais pas imposer cela à mes officiers de sécurité, etc. C'est-à-dire, je veux pas. C'est impossible d'aller avec.
Pourquoi, finalement ?
Parce que je n'ai pas de liaison. Je n'ai pas de liaison régulière. Si j'avais une liaison régulière, le petit couple gentil qui pousse la poussette dans le marais avec le petit coréen dans la poussette, c'est plus facile. Bon. C'est rentrer dans les normes, hein, ça. Mais le problème, c'est que il se trouve que ça m'est arrivé, mais il se trouve qu'actuellement, je n'ai pas de relation permanente. Donc, ça aurait pu être que des aventures. Et des aventures, je ne peux pas les avoir chez moi, parce que j'ai mon fils et que je ne veux pas lui imposer ça. Bon. Ça peut difficilement se passer au ministère, hein.
Ça a déjà dû se faire, mais...
Sans doute, oui, mais c'est une proposition. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne sortais pas très bien. Bon. Mm. Et alors, quoi aller draguer en laissant les officiers de sécurité à la porte du lieu de drague jamais, je ne vais jamais faire ça. Je ne peux pas faire ça. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de vie amoureuse. Il y a eu 3 ou 4 petites... escarmouche, disons, mais vraiment très clandestine. C'est pas satisfaisant. Et donc, ça, c'est quelque chose. Mais je l'ai très bien accepté en même temps. Je veux dire, c'est tellement intéressant d'être ministre que vous renoncez à beaucoup de choses. Et c'est vrai que ma vie personnelle s'est limitée à ma famille proche et à 2 ou 3 amis qui sont mes proches aussi. Que j'ai continué à voir beaucoup, mais en dehors de ça, non. Alors ça, il faut renoncer à beaucoup de choses comme ça.
Est-ce que parmi les gens de votre entourage, il y en a qui vous en veulent vraiment d'avoir participé à un gouvernement de droite ?
Dans mon entourage, personne. Quelquefois, des gens ont été agressifs, pas beaucoup, et voilà. Je sais, en revanche, que dans les dîners en ville, dans beaucoup de circonstances, beaucoup de gens étaient très critiques. Ça, je sais. Mais parmi mes amis, non. Mmh. Et je pense que François ne m'aurait fait aucun reproche. C'est à tel point que même Daniel, qui était quand même beaucoup plus engagé, enfin beaucoup plus à l'extrême gauche que François, même Daniel a félicité ma mère. Alors, vous voyez ? Il lui a dit, tu dois être contente pour ton fils quand même. Je dis exactement ça. Tu dois être contente pour ton fils quand même. Et dans ce quand même, il y avait beaucoup plus d'affection que de dérision. Merci de me rappeler. Ça, c'est mon dernier carton, oui.
C'est quoi, c'est les objets personnels ou c'est...
Non, c'est des petites choses. Ça, c'est un petit avion que m'a donné l'inspectrice générale du ministère, Anne-José Arlot. Elle m'a dit, voilà, vous allez pouvoir prendre l'avion. C'est joli, non? Décolle. J'espère que je ne vais pas être frappé par la foudre à mon tour. Je trouve génial que pour la première visite à Angela Merkel, telle une Valkyrie à l'aéroport de Berlin, je l'imagine, vous savez, avec le casque, avec les cornes, lançant la foudre sur l'avion de François Hollande. C'est extraordinaire, cette histoire, quand même. Enfin, finalement, ça s'est bien terminé. Mais oui, alors là, il y a mon écharpe, une lettre, voilà, des choses comme ça, des petites choses. Mais le gros des cartons est parti quand même. Hein. Je les ai fait partir dans la maison de ma mère, à côté de Pont-l'Évêque. Et puis je vais les ranger. Le ministère prend charge de déménagement. Voilà. Enfin, je crois que je n'ai pas abusé de mes prérogatives sur ce plan-là. Je trouve pour le coup que c'est assez démagogique de vouloir réduire les honoraires des ministres. C'est une décision qui va être prise dans les prochaines heures. Quand vous voyez les risques permanents de la fonction, vous risquez à chaque moment de faire une connerie, de signer un parapheur quand vous en avez 40, qui n'est pas le bon et qui peut vous... s'exposer à des poursuites pénales pour quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé, même si votre cabinet est très très performant, ça peut arriver. Et voilà, c'est un métier quand même risqué, c'est un métier très fatigant et risqué. Et le salaire d'un ministre était dérisoire par rapport au salaire que touchent les grands patrons d'entreprise. Moi, je gagnais 12 000 euros par mois. C'est un salaire énorme comparé à ce que vivent les Français. J'en ai bien conscience. Mais cela dit, je n'avais pas d'appartement de fonction. J'ai donc un appartement à Paris, ça coûte de l'argent. Je payais mes impôts. J'ai même été l'objet d'une vérification fiscale importante. Et le directeur des impôts m'a dit « Vous seriez un citoyen ordinaire, que vous attaqueriez le tribunal administratif qui vous donnerait raison. Mais vous êtes ministre et on ne peut pas courir le risque d'avoir cette affaire dans le cadre enchaîné. Donc il faut payer. » Vous pouvez dire, je l'ai senti passer. Je sors du ministère... avec des dettes. Voilà. Parce que j'ai, je vous dis, un appartement, mes impôts, mon fils, ma mère, et ça va très vite. Hein, ça a l'air choquant de dire ça. Et donc je trouve assez démagogique de réduire le salaire des ministres. D'ailleurs, je pense que c'est contre-performant, parce que un ministre à 9 000 euros par mois qui habite à Paris sans appartement de fonction... et qui doit continuer à vivre, qui doit s'acheter des costumes propres et des choses comme ça, eh bien, il aura du mal à joindre les deux bouts, aussi étrange que ça puisse paraître.
Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui alors, là ?
Aujourd'hui, j'ai des tas de lettres à faire. Alors, je vais écrire une lettre à François Fillon pour lui dire à quel point j'étais honoré et heureux de travailler pour lui. Et je veux écrire à deux ou trois préfets qui m'ont envoyé des mots pour me dire que deux ou trois choses auxquelles je tenais avaient été faites avant que je ne m'en aille. Voilà, j'ai du travail. Mais évidemment, le bureau est vide maintenant, mais j'ai suffisamment de choses à faire sur mon bureau pour y aller.
Mais vous attendez un coup de fil, là ?
Un coup de fil, non. Enfin, j'aurai un coup de fil quand le gouvernement a été formé. Je pense que c'est mon successeur qui m'appellera. Et donc la passation aura lieu demain, je pense. C'est une période que je n'aime pas. Là, on vit dans une espèce de suspense. Et en plus, c'est une période émotionnellement qui est assez forte, parce que les gens qui sont ici étaient contents d'être avec moi. Donc ils viennent tous me voir. disant on vous regrette déjà, on aimerait que vous soyez là, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et en même temps, je ne sais pas gérer ce genre de situation. Je ne sais pas quoi leur dire. Et là, dans ce bureau, voilà, reste Béatrice et Rosita. Et Laurence qui est partie, mais qui va revenir. Voilà. Mais le bureau est quasiment vide, là aussi. Ah ben voilà Laurence, non, au contraire. Voilà, les trois grâces, mes trois protectrices.
Bon, voilà. Les dernières à vous surveiller.
Ben, elles ne me surveillent pas. Elles m'encouragent, au contraire. Elles m'encouragent. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est génial, on a encore des journaux alors.
Ils ont tous supprimé.
Ils ont tous supprimé. Oui. Formidable, ça. Hein? Donc c'est vous qui les avez achetés? Bon, c'est très gentil. Très gentil. Vous descendez par où? Vous m'accompagnez-moi encore.
Ouais.
Et.
Sur la proposition du Premier ministre. Le président de la République a nommé Madame Aurélie Filippetti,
bonjour, jeune Jean.
Ministre
bonjour.
De la Culture et de la Communication.
On y va, les garçons. Bonjour.
Le Conseil des ministres se tiendra demain à 15h.
Je vous remercie.
Vous savez avec qui je viens de changer mon téléphone portable?
Non.
Avec un de vos collègues du gouvernement, Claude Guéant.
On m'a devisé sur le retour à la vie normale à l'agence Orange de madame.
Ah, c'est formidable, écoutez. Non, ouais. Le ministère de la Culture et de la Communication peut être fier d'avoir une personnalité comme Aurélie Filippetti bientôt à sa tête. Au revoir. Je m'aperçois que je dis tous ces mots un peu solennels et un peu émouvants, nous sommes émus, Aurélie et moi, devant la maman d'Aurélie, qui doit être très fière que sa fille soit aujourd'hui ministre de la Culture et de la Communication. Eh bien, chère madame, votre fille le mérite.
C'était Frédéric Mitterrand, le dernier jour de sa vie de ministre, un reportage d'Amaury Chardot réalisé par Delphine Lemaire avec un coup de main de Jean-Christophe Francis que je remercie tout particulièrement. Cette émission a été diffusée le 12 juillet 2012. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
Circulating new life, operating, generating new life.